Le commentaire de
Luc La Liberté, une vision américaine, pas comme les autres.
Ah, Luc, grande déception hier dans les rangs des gens de QAnon. La tempête tant attendue ne s'est pas produite. La tempête, c'était censé là, être une opération militaire qui aurait arrêté Joe Biden et ses acolytes, les aurait envoyés à Guantanamo ou alors, tiens, décapités directement sur place. Trump restitué comme président des États-Unis. Je sais pas si tu as vu, là, mais les vidéos qui circulent des gens de QAnon qui sont en détresse psychologique totale.
Écoute, on a eu toutes sortes de réactions depuis hier. Puis moi, il y en a des adeptes de QAnon qui m'écrivent régulièrement, soit par le courriel, soit sur Facebook, parce que, bien entendu, je n'ai rien compris à tout ça. Mais j'ai pas osé les relancer. Je me disais, on fera pas dans la provocation, on va pas relancer, puis on va pas leur demander, écoutez, il est midi, puis j'ai encore rien vu, que se passe-t-il? Mais il y a eu toutes sortes de réactions. Il y en a certains qui ont dit, puis même ceux qui nourrissent le forum, là, parmi les principaux intervenants, il y en a qui ont dit, écoutez, on a cru bien faire, il s'est rien passé, retournons à nos vies, reprenons une vie normale. Il y avait comme une reconnaissance du caractère, pour le moins déjanté, de toute cette opération-là. Mais à l'autre extrême, on se relaie en nouvelle conspiration. Grosso modo, là, ce que j'ai vu de plus gros ce matin, puis j'ai pas perdu beaucoup de temps là, à lire ça, mais Donald Trump est toujours président des États-Unis. Joe Biden et ses proches sont passés en cour martiale, ils ont été déclarés coupable, mais on les met là comme pantins pour donner l'impression qu'on peut unir le pays. Et Donald Trump est encore là. Et j'ai pas pu m'empêcher d'esquisser un sourire parce que ça, ce serait la définition d'un état profond, ce que Donald Trump devait finalement éradiquer. Donc, on en est là. Certains sont encore dans le déni. D'autres se disent, ben écoutez, dans certains cas, ça a été une supercherie où on est déçu, on a fait de notre mieux, ça n'a pas fonctionné. Mais il y a effectivement tout un branle-bas de combat. Et moi, ce qui m'intéresse d'ici quelques jours, quelques semaines, que va-t-il rester d'un phénomène qui a joué, on ne peut pas s'en cacher, qui a joué un rôle important au sud de la frontière, puis faut-il encore le rappeler, de notre côté de la frontière, il y a beaucoup d'adeptes ici.
Écoute, c'est comme une secte religieuse, tu sais, quand on promet la fin du monde pour la semaine prochaine, et finalement, ces gens-là se préparent pour the rapture, et finalement, ça n'arrive pas, et là, on dit, oh non, finalement, c'est dans un mois, moi, j'ai entendu ça, là, on s'est trompé dans nos calculs, la grande tempête sera dans un mois, il y a des gens qui disent qu'hier, c'est un hologramme qu'on a vu, c'est pas le vrai Joe Biden qui est en prison, c'est des gens qui ont besoin d'aide psychologique, là.
Dans certains cas, sinon, puis je pense que dans une période particulièrement difficile pour tout le monde, je pense que certains se raccrochent à la première bouée ou à celle qu'ils semblent comprendre ou qui leur semble un peu logique au travers de beaucoup de questions sans réponse. Hein, avec la COVID, une des choses, moi, qui me fascine comme prof, l'individu s'assoit parfois un peu désemparé aussi, comme tout le monde, en se disant quand est-ce que ça va finir, parce que le vaccin va être bon, combien de temps va-t-il durer. Mais ce qui me fascine, c'est de voir à quel point on a critiqué la science, mais qu'on attend de la science des réponses parfaites du premier coup. Et pourtant, on le sait à quel point les scientifiques ont travaillé très fort. Ça ne veut pas dire qu'ils sont exempts de critiques toujours ou que les autorités politiques ont toujours bien géré ces renseignements-là. Mais dans une période d'insécurité, il y a des gens qui se rabattent vers ce qui leur semble compréhensible et ce qui est à leur portée. Donc, d'où l'intérêt de continuer à suivre ça. Moi, j'ai des gens de QAnon qui ont écrit pour dire, ben écoutez, j'ai fini par décrocher de tout ça. J'ai un ancien étudiant dont j'ignorais qu'il était un adepte de QAnon qui dit, écoute, moi, ils m'ont déçu un peu à l'avance, puis ben maintenant, j'ai modifié mes sources d'information ou je les varie.
Bon,
je me suis aperçu qu'on me menait en bateau. Ben, c'est ça. On pouvait, bien entendu, dans certains cas, se moquer de ça ou condamner ça. C'est de la désinformation et c'est malsain. C'est malhonnête surtout. Il y a quelqu'un quelque part qui profite de ça et c'est inquiétant de voir. Mais ça, des charlatans qui abusent de la bonne volonté des gens ou de la vulnérabilité, écoute, c'est aussi vieux que l'homme ou à peu près. Donc, je me réjouis au moins que certains, entre guillemets, reviennent parmi nous. Puis parmi nous, ben il n'y a pas d'unanimité. On pourrait discuter tous les deux puis en arriver à s'entendre sur des points, mais à diverger de points de vue ailleurs. Mais ça, c'est sain. Avec QAnon, on était ailleurs dans le débat. C'est impossible d'établir des ponts.
Ben non, absolument pas. Donc, hier, ce qu'on peut dire hier, c'était le retour à la normale. Bon, ce sera pas le paradis sur Terre aux États-Unis. Il y a de graves problèmes, entre autres des problèmes économiques dont on parle très peu, mais ils sont extrêmement endettés. Mais au moins, on revient au respect des institutions, à la discussion, au débat. Hein, il le dit, être américain, c'est ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais accepter de ne pas être d'accord et pas nécessairement vouloir lui sauter à la gorge. Donc, c'est retour à la normale.
Et dans un texte que j'ai publié, quand on dit retour à la normale, je disais dans la mesure où il y avait 25 000 soldats hier, puis qu'on avait l'impression d'être dans une ville fortifiée, c'est moi j'ai associé le discours de Biden à celui d'Amanda Gorman qu'on a entendu, la jeune poétesse noire de 22 ans. Et j'aimais beaucoup l'idée qu'elle dit finalement, les États-Unis, on n'a pas besoin de tout jeter à terre puis de recommencer. C'est un pays dont on n'a pas terminé, complété l'évolution. Et il y a, c'était le titre hein, de son poème, de sa tirade, c'était The Hill We Climb, hein, la montagne ou la colline dont on fait l'ascension. Ce qu'il faut rappeler à nos auditeurs, puis je pense qu'ils en sont bien conscients, tout comme les Américains, c'est qu'on est en bas de la colline présentement. Donc, avec Joe Biden, puis là, bien sûr, il y a une fenêtre d'opportunité, mais on a posé hier le premier pas vers l'ascension de cette fameuse colline.
Tout à fait.
En espérant que ce soit pas Sisyphe, on ne roule pas notre pierre vers le haut avant qu'elle ne redescende pour faire ça constamment. Mais je pense, laissons-lui une chance, on est à 24 heures, là, à peine, même pas encore de la sermentation. Je pense que déjà de revenir à des gens qui sont compétents, avec lesquels on sera peut-être pas d'accord puis qui réussiront peut-être pas tout, mais on effectue un premier pas. On est en voie c'est un processus de guérison en quelque sorte.
Oui, mais quand on dit, là, justement, c'est un pays qui est un work in progress, les États-Unis, là. Et tu sais, d'un côté, il y a les réformes et de l'autre côté, il y a les révolutions. Révolution, c'est faire table rase, tout jeter, on recommence. Voilà. Une réforme, c'est non. On continue, on change le système, on l'améliore. Donc, il y a une tentation de la révolution chez les gens, autant à gauche qu'à droite. Et là, il faut revenir en disant non, on va réformer.
Moi, j'aime bien l'allusion que tu fais aux deux termes, parce que déjà, quand j'enseigne l'histoire de la Révolution américaine, ça a été long avant que, et ça n'a jamais été toute la population américaine qui était derrière l'idée d'une révolution. Grosso modo, là, si on faisait des proportions, c'est le tiers des colons de l'époque qui sont d'accord pour mener cette révolution. Et parmi eux, il y a des gens qui s'inquiètent de ce qu'on va faire après. Parce qu'une révolution, on peut la faire, et parfois c'est important et nécessaire. Quelle direction va-t-on prendre après pour bien comprendre le système dans lequel évolue Joe Biden, il faut se rappeler que tout ça, c'est le résultat de compromis, puis de nombreux compromis qui ont commencé dès la fin de la guerre. Quelle direction on donne à ce pays-là, puis quel régime politique on se donne? Et il y a eu, tout était sur la table. C'est fascinant, là. On a envisagé de ramener une monarchie, on a envisagé un président nommé à vie, on y est allé d'une république bien imparfaite où il y avait des esclavagistes, des gens qui ne l'étaient pas, qui pratiquaient pas l'esclavage. Donc, il faut se rappeler de tout ça. Une révolution, il y a une grande part de risque avec ça. Dans une révolution, quelle faction prend le pouvoir? Puis repartir à zéro, là, c'est parfois jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein? C'est la formule classique un peu éculée. Là. Moi, j'y trouve un charme suranné, mais l'idée, c'est un peu ça. C'est que même si l'évolution dans certains dossiers, elle est très, trop lente. J'ose à peine imaginer les Noirs américains qui, hier, regardaient soit Kamala Harris ou soit Amanda Gorman et qui se disaient oui, il y a de très, très beaux symboles. On a vu la juge Sotomayor, d'ailleurs, la première latina qui faisait la sermentation de Mme Harris, c'était de très, très beaux symboles. Mais pour beaucoup, ça ne va pas encore assez vite quand on voit comment on s'emploie à limiter le vote des minorités. Mais il y a un progrès, c'est un work in progress, et moi, je pense que c'est toujours possible. Mais oui, je comprends très bien la nécessité d'un changement ou d'une révolution, là, d'une frustration quand on est en colère. C'est difficile de prendre la perspective quand on est très, très émotif, mais on peut perdre beaucoup avec une révolution.
Oui, mais tu parlais d'une formule peut-être éculée avec un charme suranné, là, jeter le bébé avec l'eau du bain. Moi, j'ai une autre formule pour toi. qui est aussi éculé, mais qui est vrai. Hein, souvent, les clichés, c'est vrai. Arrêtez de regarder ce qui reste à faire, regardez ce que nous avons fait. Et à longueur de jour, quand les médias, les militants, les partis politiques ne font que focusser sur ce qui va mal, là, tu développes un sentiment de révolte. Mais quand tu dis, regardez le chemin parcouru, on a eu maintenant un président noir, il y a eu une vice-présidente noire qui est femme. Regardez le chemin parcouru. Et là, tu as une envie de réforme en disant, on va continuer là-dedans. Là. On n'a pas besoin de tout jeter par terre.
Voilà. Puis, mais je répète, hein, c'est difficile. Puis je le fais, je répète, je suis pas un représentant des minorités. Je prétendrai jamais parler pour les émotions, les sentiments d'un hispanophone ou d'un noir ou d'un asiatique. Mais reste que ce pays-là s'est toujours relevé de terribles épreuves. Et je pense qu'on est encore là-dedans, on est en transition. Mais je pense qu'on vient de fermer, en tout cas, la fenêtre d'un des chapitres les plus tristes puis violents même de l'histoire américaine. Jusqu'à maintenant, dans son histoire, c'est ce pays-là nous a montré quelque chose, c'est qu'il peut se relever. À quel prix maintenant, puis avec quels efforts à investir, ben c'est ce qu'on va analyser au moins pendant les 4 prochaines années.
Il a tendu la main hier à Joe Sixpack. Je reviens toujours avec Joe Sixpack. Il a dit, je peux comprendre, vous couchez le soir en disant, est-ce que je vais pouvoir payer mon hypothèque, mes assurances santé, tout ça. Puis tu sais, quand il a dit, I get it, OK, I get it. Et là-dedans, moi, j'ai senti, OK, là, on a compris. Pendant longtemps, les démocrates, on ne l'a pas compris, but now we get it.
Voilà, il a utilisé, moi hier, j'ai aimé son discours. Ce qui reste maintenant, c'est quels vont être les gestes concrets qu'il va poser. Mais son discours hier, j'imagine mal. Les gens disent Biden n'est pas un grand orateur. Peut-être qu'on aurait aimé mieux entendre ça de la bouche de quelqu'un qui est plus spectaculaire habituellement ou plus emporté. Moi, je pense que d'avoir quelqu'un de calme et d'empathique, c'était déjà quelque chose. Mais son discours utilisait, on a appuyé, comme on dit parfois, sur les bons boutons. Maintenant, quel geste va-t-il poser concrètement pour dire à quelqu'un d'une zone rurale dans le centre du pays, ben écoute, le président considère aussi ta position, tes limites et tes frustrations, c'est ce qu'on va surveiller. Puis c'est un difficile équilibre, c'est ça les États-Unis d'Amérique, 50 États, des zones urbaines, des zones rurales, une population construite sur l'immigration. Donc moi, j'ai bien hâte de voir le défi, il est énorme, mais je pense bien modestement que Joe Biden est prêt pour ça.
Écoute, ça me choque tout le temps, là, choqué dans le sens secoué, là, dans le sens frappé, à quel point il y a des références à Dieu aux États-Unis. Hier, c'était incroyable, il y a eu deux prières, il y a un révérend qui a parlé, on a cité la Bible à gauche et à droite. C'est quand même un pays là où la religion est très importante.
Écoute, je réponds à ça rapidement parce que je m'apprête à aller rejoindre Mario sur les ondes de LCN pour l'ouverture de l'émission. C'est pour moi, comme Québécois, ici, j'ai des parents qui étaient profondément croyants. Je ne pratique pas. Mais jamais on va s'attendre de M. Legault, de M. Trudeau, à ce que ses convictions religieuses servent à le faire élire ou soient incontournables pour qu'on puisse accéder au pouvoir. Aux États-Unis, on en est encore, même si le nombre daté de gens qui ne croient pas ou ne pratiquent pas est à la hausse constamment depuis quelques années. Ça s'est même accéléré là, dans les 10-15 dernières années. On ne peut pas faire de politique sans référer à Dieu. Et ce qu'il faut toujours rappeler, c'est à quel point la séparation entre l'Église et l'État, ça a été mentionné au début de l'histoire, mais à quel point il a toujours fallu mettre un frein à un moment donné à l'importance de la religion. Écoute, la Cour suprême a dû se prononcer à un moment donné parce que dans certains États, en entrant dans les capitales, là où travaillent les législateurs, on avait mis sur les murs les 10 commandements. Quand on a demandé à la Cour suprême de se prononcer, elle l'a fait. Puis on a rappelé que c'était une république laïque, puis une république en plus fondée sur la tolérance religieuse. En passant, M. Biden, là, sur 46 présidents, il n'est que le deuxième catholique après John F. Kennedy. Ce sont effectivement des chrétiens, mais essentiellement les différentes confessions protestantes. Mais ce sont des chrétiens qui occupent le pouvoir. Et il faut voir là-dedans aussi, dans le jeu politique, quelle place ou quelle influence peuvent avoir les factions religieuses. La devise des États-Unis, tout le monde la voit sur les billets de banque.
In God we trust.
Voilà. Ben, quand on connaît l'histoire américaine, la place des calvinistes, ces protestants qui adhéraient à Calvin, ben, réussite matérielle et religion, pour eux, ça avait un certain sens. Et on a gardé ça. Et c'est M. Eisenhower, après la Deuxième Guerre mondiale, qui a dit « Satisfaisons les pressions des conservateurs religieux, puis adoptons ça. » Moi, j'ai toujours préféré ce qui était la devise qui était officieuse des États-Unis puis qui remonte à l'époque coloniale, et pluribus unum, de plusieurs un. Je pense que ça parle beaucoup plus à l'ensemble des États-Unis pas à leur parcours. Mais en même temps, au plan politique, bon, on voit l'importance de la religion. C'est récent, cette fameuse devise-là, puis on la doit à M. Eisenhower.
Et merci beaucoup. On te laisse aller parce que Mario t'attend. Merci beaucoup,
Luc. Salut. Bye, Richard. Salut.